la Slovaquie, la Turquie ou encore le Ghana sont cités parmi les exemples les plus emblématiques de ces offensives. La France, deuxième financeur européen des réseaux anti-genre. Parce que l'un des principaux enseignements du rapport concerne la place occupée par la France dans cette dynamique internationale. On a souvent tendance à considérer que ces mouvements sont extérieurs à la France. Mais le pays est loin d'être hermétique, souligne Lola Schulman, chargée du plaidoyer justice de genre chez Amnesty International France. L'étude décrit un écosystème composé d'associations, de fondations, de groupes politiques et de collectifs militants qui partagent des objectifs communs, malgré des modes d'action parfois différents. Parmi les principaux acteurs identifiés figurent le milliardaire ultra-conservateur Pierre-Édouard Sterrin, l'entrepreneur qui a fait fortune avec Smartbox, qui est également à l'origine du projet Périclès. Donc, Périclès, c'est patriote enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. À vos souhaits.
C'est ça.
Destiné à soutenir une nébuleuse d'initiatives politiques, médiatiques et associatives visant une victoire idéologique, électorale et politique de l'extrême droite. Donc, Amnesty International souligne également le rôle de la Fondation Jérôme Lejeune, active dans la lutte contre l'avortement ou encore celui d'organisations comme Parents Vigilants ou Némésis. Tiens, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler de Némésis. Régulièrement présente dans les débats publics et proche de certaines formations de droite radicale. On voit une augmentation rapide des financements privés qui permettent d'outiller, de financer et de renforcer de nombreuses structures engagées dans cet agenda politique. Donc, observe Lola Schulman, et le mouvement anti-genre instrumentalise la morale et la religion dans l'objectif de refondre la société dans un idéal conservateur et patriarcal. Donc, au-delà des financements, le rapport détaille les modes opératoires employés par ces mouvements. La diffusion de récits anxiogènes, qui constitue l'un des principaux leviers identifiés. Les droits des LGBTI, les politiques d'égalité ou encore l'éducation à la sexualité sont régulièrement présentés comme des menaces pour l'enfance, la famille ou les valeurs traditionnelles. Le mouvement anti-genre instrumentalise la morale et la religion dans l'objectif, effectivement, d'aboutir à un idéal conservateur et patriarcale et de revenir sur les droits humains acquis de longue date. Donc ces discours prospèrent notamment sur les réseaux sociaux où les campagnes de harcèlement ciblant des militantes féministes, des associations ou des personnes LGBTI+, se multiplient. Amnesty évoque également le développement des sphères masculinistes et incel accusés de normaliser les violences contre les femmes et dans certains cas d'encourager le passage à l'acte. Sur le terrain, plusieurs centres LGBTI+, ont été victimes ces dernières années de dégradations ou d'actes d'intimidation à Lille, à Lyon, à Rennes, Le Mans ou Maubeuge. Pour Amnesty, donc, ces actions participent d'une stratégie plus large visant à affaiblir les structures de défense des droits. Les associations féministes et les centres LGBTI subissent une double peine. Simultanément, leurs subventions diminuent face à ces offensives ciblées, est largement financée. Elles voient simultanément leurs subventions diminuer, voire disparaître. Et donc cela entrave dangereusement leur capacité d'intervention, ce qui est précisément l'effet recherché. Donc face à ce contexte, Amnesty International formule plusieurs recommandations destinées aux autorités françaises. Donc, notre organisation appelle notamment à renforcer les financements publics des associations de défense des droits des femmes et des personnes LGBTI+, à mieux protéger les défenseurs des droits humains contre les menaces et campagnes de harcèlement, et à condamner systématiquement les attaques visant ces publics. Il faut rendre visibles ces mouvements, dénoncer leurs méthodes et comprendre les liens qui les unissent, insiste Lola Schulman. Tant qu'ils resteront sous-estimés, leur influence continuera à progresser. Et donc Amnesty plaide également pour une diplomatie féministe plus ambitieuse dans les instances internationales afin de contrer les tentatives de remise en cause des normes de protection des droits humains. Malgré la progression de ces mouvements, Amnesty souligne néanmoins l'existence de résistances. l'initiative européenne « Ma voix, mon choix », la mobilisation de centaines de milliers de personnes lors de la marche des fiertés de Budapest en juin 2025, malgré son interdiction, ou encore la constitutionnalisation de l'IVG en France, figurent parmi les exemples mis en avant. La justice de genre n'est pas un idéal abstrait, ni un enjeu secondaire, conclut Anne Savinel-Barras. Il s'agit d'une condition essentielle au respect des droits et à la sécurité de toutes les personnes. Voilà.
Ok, mais effectivement, on est sur une pente glissante, y compris en France, par rapport à tous ces droits. Et effectivement, il faut rester vigilant et surtout, il faut se bouger. Surtout, il faut se bouger. On n'est jamais réduit à l'impuissance. Et je crois que...
Oui, voilà, je vais dire...
Elle a fait des grands gestes qui étaient quand même voilà, pendant que je faisais mon article.
On va tout vous dire, mais Claire-Lise avait intitulé son article un peu différencié. Et moi, celui que je voulais vous parler, c'est le même, mais distillé d'une autre façon. Donc, elle a eu la primauté. Je vais juste rajouter...
Moi, c'était un article complet qui s'appelait comme ça.
Non, allez-y.
Moi, c'est un article aussi complet, mais qui s'appelle comme si.
Vas-y.
Non, donc, tu as vraiment tout dit. Il y avait un petit peu plus d'informations dessus. Et moi, ce qui me semble important par rapport à ce que tu dis, Didier, c'est la jeunesse. Oui. Parce que là, c'est vraiment cette cible. Et cette cible par rapport au TikTok, par rapport au Instagram, par rapport à ces vidéos. Et comme on sait que la jeunesse ne regarde plus la télé, n'achète plus les journaux, n'écoute plus la radio, ils sont complètement... Les jeunes, et là en particulier, puisqu'on parlait plutôt du masculinisme, donc les garçons, sont aussi eux-mêmes en grande difficulté parce qu'ils n'ont plus de liens et de textes qui peut les faire rêver pour après. Donc ces jeunes-là, je ne sais pas si vous avez vu le jeune influenceur américain qui est venu pour essayer de Paris, qui se fait des mâchoires carrées parce que c'est semble-t-il l'identité masculine la plus importante. Donc les jeunes, ils sont aussi très très fragiles. Alors on parle de santé mentale, mais là on parle aussi d'endoctrinement, c'est carrément ça. C'est vraiment autre chose. Et c'est sur ce public-là qu'il faut vraiment agir et essayer de leur ouvrir les yeux. Je pense que les adultes sont un peu plus estomaqués de ce qui se passe. Enfin moi c'est mon cas, se dire mais attends c'est pas possible que ça prenne de cette force-là. Et aussi les filles, parce que ça veut dire qu'un jeune, moi j'ai entendu une émission, un jeune garçon qui est embrigadé dans ces trucs-là, il peut commencer à exercer son masculinisme et son non-genre sur sa mère, sa sœur et des choses comme ça qui peuvent devenir violentes. Et c'est pour ça aussi que il y a le service de renseignement qui est très soucieux et qui dit que la radicalisation des jeunes représente une grave menace terroriste en France. Et d'un autre côté, on a les filles, parce que je crois que le mouvement, c'est le mouvement des femmes traditionnelles. Alors en anglais, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais donc ils se disent mais oui, mais c'est trop bien d'être à la maison, d'avoir des enfants, de ne rien faire, d'être sous la coupe de ce gars qui a ce grande mâchoire carrée et qui est tellement beau que je craque pour lui. Donc c'est ça. Pour moi, c'est vraiment sur l'article que tu as dit, qui était effectivement décortiqué. Allez quand même le voir, il est sur la page Amnesty, qui donne la décortication, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas mal.
Ça se dira.
Du rapport d'Amnesty et qui va en même temps avec le rapport du Sénat. Et j'ai vu une interview sur 28 minutes Arte de la sénatrice de Lyon qui fait partie et qui elle aussi a une parole très 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 importante et très très libre. Et il faut vraiment résister à ces montées de discours et les déconstruire. Vraiment, les déconstruire. Donc, pour les déconstruire, il faut les comprendre.
Et c'est quand même pas par hasard que par exemple, Stérin, quand même, qui est un gars qui est foncièrement, qui finance les mouvements d'extrême droite, etc. C'est pas par hasard que ce sont ces milieux-là qui financent toutes les, de toute façon, les médias, qui financent les influenceurs, qui financent toute l'influence qu'il peut y avoir sur la pensée pour les personnes, pour les endoctriner vers ce...
On retrouve derrière aussi des mouvements extrême droite-mistes. Juste pour Stérin, donc il a des écoles hors contrat, faut quand même le savoir. Quand on voit des choses en France qui se passent, c'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose de tout à fait calculé. Et lui, il rêve d'avoir plein de bébés blancs et européens.
Blancs si possible, oui, bien
bien sûr.
Voilà, ah bah bien sûr, parce que couleur, et puis alors surtout pas d'avortement.
Il doit penser que c'est la seule couleur humaine acceptable d'être blanc.
Et Jérôme Lejeune aussi, comme ce que tu as dit c'est aussi. Ça. Donc.
Mesdames, parlez bien dans vos micros.
Oui, et, non, c'est parce qu'on parle entre nous parce qu'on a eu les mêmes envies de parler, oui, donc c'est quand même
j'ai
étonnant
bien compris
aussi.
Que vous étiez
mais tu sais, je regardais mon texte puis sur le côté parce que j'ai quand même une vision périphérique. Je voyais Edith qui faisait plein de grands textes.
Bah j'ai vu. Ah mais ça.
Non mais c'est vrai que toutes ces répressions, toutes ces régressions effectivement nous préoccupent tous et toutes et tous. Donc je comprends bien que la discussion soit animée. Ça c'est pas.
On avait envie d'en parler.
Mais comme on est à la radio, il faut parler dans.
Mais c'est un débat. On va dire un débat entre nous.
On en avait déjà parlé des mouvements masculinistes en réaction à MeToo.
Oui.
Ils sont devenus hyper violents aux États-Unis en réaction, parce que pour cet effort aussi, toutes les déclarations, le mouvement MeToo. Et donc, ça a démarré de là, en fait, en réaction, en se disant, mais attends, les meufs, là, elles vont pas commencer à nous,
voilà,
nous embêter avec leurs droits.
Au passage
on peut quand même les violer comme on veut, quoi.
Et puis là, on va passer. À moins que tu aies encore un.
Non, j'arrête. Alors, je vous dis d'aller voir sur le site d'Amnesty et l'article de Claire Lise et moi, là, la façon un peu plus schématique, avec des infos, mais c'est les mêmes. Et c'est tout à fait important à connaître.
Et donc avant de passer la seconde pause musicale qu'on va vous passer, elles sont en train de se faire des signes. Et donc on va vous passer la seconde pause musicale. On n'a pas l'image à la radio, on n'a que le son. Et donc juste pour rebondir sur ce que vient de vous dire Claire Lise, ce qu'il faut bien aussi avoir à l'esprit, et ça va encore être après la pause musicale, je vous dans la suite de ce qui vous a été dit par Claire Lise, je vais vous parler en quelques mots d'un article qui paraît aussi dans la chronique sur la violence en Indonésie contre les homosexuels. Et donc ça fait le lien. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon toutes les régressions qui nous sont proposées par Sterrin, compagnie, enfin etc, ces retours à l'ordre moral dans tous les mauvais sens du terme, ça ne peut engendrer qu'une société de violence, ça ne peut passer que par la
et
violence.
Les femmes, c'est inévitable. C'est la moitié de l'humanité.
Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est aussi insupportable. Deuxième pause musicale.
Ils m'ont arrêté une nuit où le froid jouait du rasoir. Rue de Flandre, loin du pays, entre le crack et le poignard. Question de peau, question de veine et de couleur. Je me suis planqué comme un renard, train d'atterrissage d'un avion, dans le conteneur d'un bagnard, dans la chambre arrière d'un camion. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé au fond des corridors, travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin, traqué par la police. Silencieux, au bord du précipice. C'est à fleur de peau qu'on explique la forêt sanglante et l'horreur.
Si j'acte l'or, c'est l'Afrique, vaut mieux annoncer la couleur.
Question de peau, question de veine et de malheur. Et musiciens d'Afrique, faut voir l'immigration des blancs. On peut crever, c'est très ethnique, avec l'extrême onction des grands. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arriver
corridor.
Travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police.
Silencieux au bord du précipice. Arrivé
au fond des corridors.
Travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police.
Silencieux au bord du précipice.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'était Bernard Lavillier et Tikenja Fakoli, un titre qui s'appelle « Question de peau », et il est inutile de vous dire à quel point ce titre, effectivement, est, nous parle, nous, en tant que militants des droits humains. Voilà, tout ce qui est
en
dit.
En tant qu'humain, on va dire, oui. Parce qu'on n'a pas besoin de militer pour que ça nous cause.
Oui, non, mais d'accord. Oui,
non, bah oui, mais il ne faut c'est pas vrai. Se limiter.
Donc, Clarlis vous a parlé, effectivement,
de, toi.
Du retour des antidroits contre les LGBT et de tout ce qui va avec. Encore une fois, ça ne peut amener qu'une société basée sur la violence. Et pour l'illustrer, il y a un article qui est paru dans la dernière chronique et qui parle effectivement de la répression des homosexuels dans une province d'Indonésie. Laquelle province ? Ça s'appelle Aceh ou Aceh, je ne sais pas comment on prononce. Donc voilà. Et donc ça commence comme ça. Alors je vais vous lire le premier témoignage qui est un petit peu dur, qui est un petit peu dur à entendre. Hein, je suis désolé. C'est pas très cool, mais bon, ça c'est quand même quelque chose qui est tout à fait révélateur de ce qui peut se passer si jamais on se laisse dévier sur ce genre de répression. Le 26 août 2025, la vie d'un jeune homme bascule. Cory Husmi, 20 ans, reçoit 76 coups de canne, un châtiment corporel infligé uniquement parce qu'il est homosexuel. La scène se déroule sur la place Taman Sari, au cœur de la capitale provinciale, Banda Aceh. Ici, loin des plages touristiques, une interprétation rigoriste de la charia, la loi islamique, s'applique. Et dans cette province de 5 millions d'habitants, un lourd silence entoure les violences contre celles et ceux considérés comme « différents ». Entre guillemets. Peu osent prendre leur défense. Nous retrouvons Cory Husmi 2 mois après la journée la plus traumatisante de sa vie. L'entretien a lieu sur le parvis en carrelage blanc de la place Taman Sari, exactement là où il a été frappé. Il se revoit monté sur l'estrade, revêtu de la tunique blanche des parias. Il entend encore les ricanements du public venu assister au supplice. Il se souvient de sa honte, de son sentiment de culpabilité. Son bourreau, une femme, comme le veut la coutume, est encagoulée, masquée et habillée d'une tunique marron. Dans sa main, une canne en bois d'un mètre. Dès les premiers coups, Cory ferme les yeux. Un sifflement sec, le claquement de la canne sur son dos. Encore et encore, 76 fois. Il veut disparaître. Ses vertèbres craquent, son visage se crispe, ses jambes cèdent. Les hématomes mettront 9 jours à s'estomper. Une humiliation supplémentaire gravée sur son corps. Son supplice sera diffusé largement. Des caméras de chaînes pro-gouvernementales le filment chaque flagellation comme une cérémonie parfaitement orchestrée. Dans la province d'Aceh, l'homosexualité est criminalisée depuis plus de 20 ans. Alors voilà, je vais tourner la page pour lire un petit peu la suite de l'article, je ne vais pas tout vous lire. Mais donc, effectivement, voilà à quoi ça peut ressembler, une société qui reprime l'homosexualité. Est-ce qu'on a envie de ça ? J'ai pas du tout, je ne le crois pas du tout. Après, il y a un autre homosexuel qui a été dans l'article, qui a été arrêté par la police, et qui dit quelques mots sur son séjour dans le commissariat de police. Alors, il nous raconte, donc cette personne nous raconte cet épisode « Mâchoire serrée ». Ils m'ont dit, c'est lui qui parle, ils m'ont dit que je méritais la castration. C'est les policiers qui parlent. Ils m'ont dit que je méritais la castration comme un animal. Je suis un humain. Avant d'être envoyé en prison, à Pis, c'est son nom, et placé 50 jours dans une cellule délabrée. Les policiers le passent 7 fois à tabac. Le 27 février 2025, il est jugé à huis clos en 12 minutes. Il reste muet en état de choc. Verdict, 82 coups de canne, tout comme son compagnon. Le lendemain, sa peine est exécutée sur l'esplanade de Taman, là où Cory sera battu 6 mois plus tard. Apis conserve en mémoire la silhouette de la femme bourreau. Elle a été informée du nombre de coups apportés quelques secondes avant le châtiment. Au 20e coup, elle accorde au condamné une courte pause, un verre d'eau, un pansement sur le sang qui coule. Alors le vice-président de l'État en question, là, donc de l'État d'Aché, Amir Kalis, il détaille aux gens qui ont fait l'article, il détaille les peines encourues. Selon lui, les personnes condamnées pour crimes homosexuels ont de la chance. Elles peuvent choisir entre 100 coups de canne ou 10 mois de prison. Il compare même la flagellation à une petite correction en mimant le mouvement. Voilà, donc encore une fois, ça laisse malheureusement rêveur dans le mauvais sens du terme. Après, le dossier qui est effectivement assez long. Et il y a quelques mots, et je m'arrêterai là, quelques mots qui est dit par un des responsables très haut placés du gouvernement de cette province en Indonésie. Il s'appelle Malik Mahmoud Al-Haytar. Il est le gardien des traditions et du droit coutumier dans cette province d'Aché. Et voilà ce qu'il dit. Après, donc interviewé aussi par les journalistes qui ont fait l'article. Après une heure d'entretien, il se montre plus disert encore, insistant sur la nécessité de corriger physiquement les homosexuels. Depuis les premières flagellations publiques en 2017, il insiste sur le fait que ce châtiment ne distingue ni classe ni richesse. Le bâton ne fait pas la différence entre un riche et un pauvre. Il remet la dignité de chacun à sa place. On les aide en les corrigeant. Et ils ne recommencent pas parce qu'ils ont honte, soutient-il, tout en reconnaissant que certains fuient la province. Et il dit « ce n'est pas une grande perte ». Il nous invite même à relativiser, rappelant que Singapour, ce qui est à côté, utilise aussi la flagellation, mais en prison, pas en public, comme nous. Amnesty International rappelle que ce châtiment reste intrinsèquement cruel, inhumain et dégradant et constitutif de torture au regard du droit international. Et bien sûr, notre ONG demande l'abrogation des châtiments liés à la loi islamique locale. Bon, après, mais on n'aura pas le temps, je voulais vous dire aussi quelques extraits d'une interview, et ça conclut ce dossier, d'une interview d'un professeur aux États-Unis qui travaille à l'université de Montclair, qui s'appelle Arnaud Kurz, et qui explique effectivement de façon plus détaillée comment la société civile, même dans ces pays-là, peut lutter contre toute la violence qui découle de cette répression des droits des LGBT. Bon, je vais vous renvoyer en fait au dossier qui est publié, hein, j'ai vu aujourd'hui.
Sur le site d'Amnesty.
Sur le site d'Amnesty, effectivement, il est en première page. C'est le même dossier tiré de la chronique. Je ne peux que vous y renvoyer. Et surtout, signez aussi toutes nos pétitions. Il y en a plusieurs, enfin, il y en a au moins une, peut-être deux, je ne sais plus, sur le site d'Amnesty par rapport à la répression des LGBT. C'est ce que tu voulais dire.
Oui, et puis, redire aussi qu'en Afrique, de toute façon, ça continue aussi la répression, que ce soit au Sénégal, en Ouganda. On a vu que les lois se durcissent de plus en plus à nouveau par rapport aux personnes homosexuelles ou lesbiennes.
Voilà. Tout à fait. Et donc, on choisit entre le respect des droits de tous les gens, quels qu'ils soient, et c'est ce que nous, on pense à Amnesty et qu'on soutient à Amnesty, ou on ouvre la porte à la violence et ce type de violence dont je viens de vous citer quelques exemples. Je pense pas que ça fasse envie à grand monde.
Une petite bonne nouvelle ?
Oui, une petite bonne nouvelle tout à fait avant de finir.
Voilà, donc ça se passe au Vietnam, on a dû vous en parler, mais il y a déjà longtemps, parce que Dan Dinh Bar, il a été emprisonné, 5 ans en prison, il a entamé en prison 3 grèves de la faim, il a eu un nouveau-né qui est né avant, au début de son emprisonnement, qu'il n'a pas vu grandir, donc un petit enfant qui doit avoir 5 ans maintenant. Son crime, c'était se battre pour la préservation de l'environnement. Il a été condamné, puisqu'on ne pouvait pas le condamner pour sa part, et pour évasion fiscale à la suite d'un procès qualifié d'arbitraire par les experts des Nations Unies. Et aujourd'hui, il est libre. Il est libre, mais il a quand même fait sa peine de prison. Donc ce qu'on est content, c'est qu'il ne semblera pas y avoir quelque chose derrière qui le bloque. Après, va-t-il pouvoir reprendre sa vie et de nouveau être avocat ? Ça, on n'en sait rien. Mais c'est juste pour rappeler qu'un pays, le Vietnam aussi, on voudrait bien qu'il y ait la fin des détentions arbitraires, le respect des engagements internationaux qu'a signé le Vietnam en matière de droits humains, la protection des militants et des journalistes qui osent parler. Donc continuez aussi à signer. Donc le petit article finit en disant que Dan Dinh Bar va nous remercier. Alors ça, franchement, on vous dirait, c'est pas le plus important, mais il donnera des nouvelles quand il aura récupéré et retrouvé un peu de vie normale.
Voilà.
Voilà. On se bat. ensemble, on gagne ensemble.
Bah, ce qui nous motive aussi, c'est qu'on reçoit quand même plusieurs fois dans l'année, on vous en parle de certaines dans nos émissions, effectivement, de ce qu'on appelle des bonnes nouvelles, libération de prisonniers d'opinion, ou avancée de loi dans le bon sens par rapport au droit dans certains pays. Pas suffisamment, et on a beaucoup plus de sujets d'inquiétude à l'heure actuelle que de satisfaction, mais des satisfactions et des bonnes nouvelles, on en a quand même, effectivement, faut pas non plus l'oublier, ça c'est important. Donc, et puis on va conclure l'émission qui va s'arrêter dans 2-3 minutes maintenant. On va vous souhaiter
un très bel été
à tous. Je vais juste faire, ça me revient à l'esprit, c'était pas du tout préparé, mais c'est pas grave. J'ai pu discuter pas le week-end dernier, celui d'avant, avec quelqu'un qui est iranien, qui réside en France depuis 2022, m'a-t-il dit, qui était venu en France pour ses études, maintenant il travaille chez nous, et qui a parlé de. J'ai discuté assez longuement avec lui de la société iranienne, et lui, il m'a dit qu'il estime que au moins 80% de la société civile iranienne, et ça fait un lien aussi avec ce que Claire-Lise vous disait par rapport au massacre dans l'école dû au bombardement des États-Unis, 80% de la société civile iranienne n'attend qu'une chose, c'est le départ des ayatollahs, l'abandon de la République islamique, et qu'effectivement, pour eux, ça devient de plus en plus insupportable, et que vraiment, c'est quelque chose qui leur tient particulièrement à cœur. Et lui m'a dit, à l'issue de la discussion, on a parlé ensemble pendant plus d'une heure, à l'issue de la discussion, je lui ai demandé s'il espérait un jour rentrer dans son pays, et il m'a dit, j'espère y retourner, mais je ne retournerai que quand l'Iran sera devenu une démocratie, et en souriant, il m'a dit, mais inévitablement, ça arrivera. Voilà. Donc c'est aussi un peu une voie d'espoir, même si on en est encore loin. Voilà. Mais donc c'est important de rencontrer.
Les droits
aussi.
Humains, ils sont pas vraiment dans les accords.
Non, et puis Trump.
Pas du tout.
Trump et l'intervention en Iran, franchement, c'était pas pour sauver les Iraniens. Hein.
C'est clair. Ça, il m'a dit que ça avait aggravé la situation des droits humains chez lui. Ça, c'était lui, il en est tout à fait convaincu.
Parce que ça a conforté le pouvoir qu'a
il est encore. Ils sortent encore.
C'est ça. Aux États-Unis,
ils sortent plus fort.
Ils sont un peu triomphants.
C'est ça. C'est eux qui mènent la.
Ça a aggravé le pouvoir, mais ça a aggravé aussi la révolte de la société civile contre leurs tortionnaires. Voilà.
Alors, on va dire à tout le monde alors un bel été. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter encore ?
C'est dommage, on n'a pas la chanson. Moi, je veux du soleil.
Ah, bah oui, j'ai pas pensé.
Non, mais
ça.
Peut-être les gens vont trouver que c'est des fois un peu chaud. Peut-être
oui,
pas,
mais quand
peut-être
même,
pas la
elle
bonne
est jolie,
chanson.
Cette chanson-là, moi, je l'aime bien.
On va leur dire. Et bien, d'être vigilant, de regarder le site d'Amnesty, d'aller signer toutes les pétitions.
C'est ça.
Voilà.
Il y a aussi des émissions.
S'informer.
Il y a aussi des émissions de. Je te coupe la parole.
Non, mais
il y a des émissions de podcast aussi sur le site d'Amnesty France.
Il l'a dit tout à l'heure.
Voilà.
Oui, mais il l'a pas dit à la radio, c'était à nous.
Il y a toute une rubrique de podcast. Vous tapez podcast sur le moteur de recherche. Non, je crois pas l'avoir dit à l'entendre.
Oui.
Mais enfin bon, même si c'était une redite, c'est pas grave. Il y a toute une rubrique podcast sur le site d'Amnesty France, amnesty.fr. N'hésitez pas à les écouter. Il y a même des émissions en podcast qui sont des émissions d'éducation aux droits humains pour bien comprendre ce que signifient nos droits dans les différentes rubriques. Droits des femmes, droits des LGBT, et il y en a plein d'autres.
Et parler voilà. d'amnesty autour de vous.
Parce voilà, que tout à fait.
On mérite d'avoir un peu de publicité.
Tout à fait. Et un bel été à nos amis des antennes jeunes qui vont prendre la suite pour se mobiliser voilà, pour les droits humains dans les lycées d'Evreux à partir de la rentrée de septembre. On pensera bien à eux pendant tout l'été. Voilà. On se dit au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Rendez-vous le 15 septembre.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Charline, alors, votre sujet du jour est brûlant. Il y a des talibans à Bruxelles. La semaine dernière, la Commission européenne a invité une délégation.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.